Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, comment un meurtrier cannibale a-t-il pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique ?
7 heures de cavale mercredi à Toulouse qui ont failli faire une nouvelle victime. Françoise, miraculée, témoigne ce matin sur RTL. Et on sera en direct avec Patrick Tégéraud pour tenter de comprendre comment cela a pu arriver. 15 jours d'efforts avant une vie plus normale. Le gouvernement promet de desserrer l'étau. Avec aussi un objectif politique non avoué, sortir du Covid pour lancer la campagne d'Emmanuel Macron. Dans ce journal également, les Français qui déménagent pour fuir les grandes villes. La réunion de la dernière chance entre Russes et Américains à Genève pour tenter d'éviter une guerre en Ukraine. Et Benoît Paire, heureux en Australie, le joueur français aussi attachant qu'agaçant, ça tombe bien, c'est exactement pour ça qu'on l'aime.
Dès la fin de ce journal, le surf de l'info avec vous, Cyprien Sinis.
Vous allez découvrir que RTL prend tous les risques pour vous informer.
À 8h20, notre débat du jour, faut-il généraliser le télétravail, enfer ou paradis, nous poserons la question. Et puis à 8h35, notre nouveau rendez-vous tous les matins sur RTL France 2022. Est-ce bien raisonnable d'annoncer une levée aussi prochaine des restrictions ?
RTL Matin.
Et donc pour commencer ce témoignage glaçant ce matin sur RTL, à 73 ans, Françoise est une miraculée. Elle a croisé mercredi la route d'un fou dangereux, un meurtrier cannibale interné depuis 2013 et qui l'a attaqué alors qu'il venait de s'échapper de l'hôpital psychiatrique.
Je sortais pour promener mon chien, j'ai entendu quelqu'un courir, je me suis retournée et c'était ce type qui arrivait avec un énorme bâton levé. Et là, il a commencé à me tabasser. Il tapait comme un forcené avec cette espèce de bâton. J'ai hurlé, je me suis protégée la tête avec les bras, c'est pour ça que j'ai les bras en si mauvais état. Il y a des voisins qui sont sortis, il y a même un monsieur qui est descendu avec son fusil et qui l'a mis en joue. Puis la police est arrivée, l'a embarqué. Et tout le monde estime que j'ai eu de la chance parce qu'il était là pour me tuer, ça j'en suis certaine. Moi je comprends pas que ce type-là puisse s'échapper de l'endroit où ils sont. Là. Il y a quand même un problème quelque part.
Voilà donc ce document RTL, témoignage de Françoise qui a échappé à ce meurtrier. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour.
C'est vous qui avez parlé à Françoise. Qui est cet homme d'abord, ultra dangereux, surnommé d'ailleurs le cannibale de Nouillan ?
Oui, Jérémy Rimbaud a été militaire. Il a servi en Afghanistan. Il y a été traumatisé. Alors il a quitté l'armée. Et c'était en 2013, après quelques jours d'errance autour de son village familial vers Nouillan. Il aperçoit un vieil homme de 90 ans à sa fenêtre. Il monte à l'étage. Il le massacre à coups de barre de fer. Lui arrache le cœur et la langue pour les cuisiner et les manger. Ensuite, il traverse la route, puis un champ, et attaque un autre agriculteur, Jean, que j'ai pu joindre hier soir.
Et moi, il m'a agressé sur un tracteur avec une barre de fer, hein. La bouche ouverte avec les dents serrées. La façon du regard et la façon comment il a procédé, c'était une boule de nerf, voilà. Et 8 ans après, il veut continuer à tuer, voilà. On ne peut pas le récupérer, voilà. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il ne changera jamais.
Jean est bouleversé, il ne peut pas admettre que quelqu'un d'autre, 8 ans plus tard, puisse vivre son cauchemar.
Et justement Patrick, on a entendu Françoise, hein, comment cet homme a-t-il pu s'échapper de l'hôpital psychiatrique ?
Alors à vrai dire, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. L'administration de l'hôpital spécialisé Marchand à Toulouse n'a pas donné le moindre détail. Alors cet homme était normalement interné au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en Gironde. Pourquoi a-t-il été transféré à l'hôpital Marchand de Toulouse ? On ne le sait pas. Comment a-t-il pu s'échapper et échapper à la surveillance surtout du personnel de l'hôpital ? Reste que l'alerte et la mobilisation du personnel et des policiers a été immédiate. Mais il a fallu qu'il frappe à nouveau pour qu'il soit intercepté. Il avait parcouru plus de 7 km dans les rues de Toulouse. Il a erré ainsi plus de 6 heures en ville et ça fait froid dans le dos.
Oui, merci Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL. 2 jours après la mort de l'acteur Gaspard Ulliel qui a percuté un autre skieur en Savoie, aucune responsabilité n'a pu être établie à cette heure. Les vitesses n'étaient pas déraisonnables. L'autre skieur n'est pas mis en cause. L'enquête pourrait d'ailleurs être classée selon notre journaliste Serge Peillot, même si la procureure se laisse encore un délai de réflexion.
Il est 8h05. Le retour d'une vie plus normale, c'est pour dans 15 jours.
Oui, le gouvernement prolonge pour le moment les obligations sur le télétravail, prolonge également les restrictions actuelles. Mais effectivement, il y a maintenant un calendrier pour un allègement progressif des contraintes, détaillé hier par le Premier ministre Jean Castex.
Mercredi 2 février, les équipements qui accueillent du public assis pourront retrouver un fonctionnement sans jauge. Le port du masque plus exigé en extérieur. À compter du mercredi 16 février, la consommation dans les stades, les cinémas et la consommation debout dans les bars pourront reprendre, les discothèques pourront rouvrir.
Voilà donc pour le petit café au comptoir à partir du 16 février. Précisons aussi, ça a été évoqué hier, que si la tendance positive se poursuit, les élèves de primaire pourront peut-être enlever le masque en classe après les vacances de février. Bonjour Olivier Bost.
Bonjour.
Alors calendrier sanitaire, on vient de l'entendre. Est-ce que ce calendrier a aussi un sens politique en lien par exemple avec l'agenda envisagé d'Emmanuel Macron, futur candidat?
Non. La gestion de la crise sanitaire est totalement déconnectée de la campagne électorale. Je vous répète ce que disent les ministres. Cette précaution prise, les stratèges de la campagne assurent totalement de déblayer la piste de décollage. C'est l'image qu'ils utilisent. Le retour des jours heureux, pour reprendre une formule d'Emmanuel Macron, est indispensable pour l'entrée en campagne. Le moindre souci doit être balayé, d'autant que l'image de la bonne gestion de la crise a été écornée ces derniers jours. Des files d'attente devant les pharmacies aux révélations sur les vacances du ministre de l'Éducation. Eh bien, l'opinion a basculé. Une majorité de Français ne font plus confiance au gouvernement pour faire face au Covid. Dans notre sondage RTL BVA ce matin sur la popularité de l'exécutif, Emmanuel Macron chute de 6 points et grimpe à 62% de mauvaises opinions. Autour de lui, ses proches s'attendent à une baisse dans les intentions de vote dans les prochains jours. Alors, face aux turbulences, Emmanuel Macron a besoin que le Covid ne soit plus le sujet de conversation numéro 1. Il a besoin d'une ambiance un peu plus optimiste. Un temps clair pour réussir son décollage vers la présidentielle. Le calendrier de levée des restrictions est synchronisé avec ses contraintes.
Merci beaucoup Olivier Bost, l'éditorialiste politique d'RTL. Et puis notez ce rendez-vous politique dimanche. C'est le candidat communiste Fabien Roussel qui fera son grand jury RTL, le Figaro, LCI. Midi 13h, il débattra d'ailleurs avec Marlène Schiappa en deuxième partie d'émission. En bref, à l'étranger, en Autriche, la vaccination va devenir obligatoire. C'est le premier pays européen à adopter une telle mesure.
8h07, on parle immobilier maintenant. Les Français ont beaucoup déménagé ces deux dernières années.
Oui, un Français sur trois, selon une enquête Harris pour RTL. La crise sanitaire a accéléré le mouvement, comme pour cette famille qui a quitté Paris pour la banlieue en Essonne, avec le Graal, un jardin, Julie Brault.
Oui, au cœur d'une belle résidence pavillonnaire, David, 40 ans, me fait visiter sa maison.
La petite, la chambre de la grande.
Avec sa compagne et leurs deux filles, ils ont emménagé en juillet dernier.
On habite maintenant dans une maison de 170 mètres carrés, avec un jardin de 700 mètres carrés environ. 4 chambres, un bureau, 3 salles de bain, enfin de l'espace quoi.
Alors David travaille toujours à Aubervilliers. En voiture, il met 2 heures pour s'y rendre. Mais il est en télétravail au moins 3 jours par semaine. Et c'est justement ce qui l'a convaincu de quitter son appartement.
Nous avons 2 enfants, donc lorsqu'il est 16h, les enfants rentrent de l'école, donc j'allais dans la chambre. Sauf que la chambre était petite, il n'y avait pas de bureau, donc j'étais assis sur le lit avec mon PC. C'était absolument pas confortable.
Quitter Paris pour plus de confort, plus d'espace, mais surtout un jardin, c'est ce que je préfère, me dit Adèle, l'aînée de 11 ans.
Par exemple, là, je fais un sport qui s'appelle la GRS et j'ai besoin de beaucoup d'espace pour faire, par exemple, du rebond quand je dois le lancer ou du cerceau. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'avoir un jardin.
Seule interrogation, est-ce que le télétravail va perdurer? Car si ce n'est pas le cas, David devra démissionner et trouver un nouvel emploi à proximité.
Voilà pour cette famille heureuse dans son jardin, reportage de Julie Brault.
Suivez la journée spéciale immobilier sur RTL en partenariat avec le réseau Stéphane Plaza Immobilier. Un projet immobilier en 2022, Stéphane Plaza Immobilier vous accompagne pour le réaliser.
Une courte pause et dans un instant, l'escalade dans le dossier ukrainien. Les États-Unis parlent maintenant d'une menace de guerre totale. Vous avez bien entendu, il est 8h09, à tout de suite.
RTL Matin.
Il est 8h10, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL avec les tensions toujours plus fortes sur le dossier ukrainien.
Oui, le secrétaire d'État américain a même parlé hier à Berlin d'une menace de guerre totale si la Russie envahissait l'Ukraine. Anthony Blinken va rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov à Genève, qualifié ce matin d'ultime tentative pour désamorcer la crise. On va en parler avec la brigade RTL. Et avec vous, Julien Fautra, bonjour.
Bonjour à tous.
Alors, quelle est la réalité de la menace russe?
Eh bien, déjà des manœuvres prévues dans toutes les mers du monde. Arctique, Atlantique, Pacifique, Méditerranée, 140 bateaux déployés, 10 000 hommes. Ce ne sont que des exercices, certes, mais une façon pour Vladimir Poutine de montrer ses muscles et sa détermination. Et puis, les Américains accusent déjà Moscou d'avoir introduit des dizaines d'hommes en Ukraine, des agents des services secrets, pour qu'ils provoquent un incident, c'est-à-dire créer toute pièce, un prétexte à une intervention des troupes.
Est-ce que la France pourrait intervenir en cas de conflit?
Ce qui est certain, c'est que dans la tête des militaires français, des sanctions économiques dans nos relations commerciales avec les Russes ne suffiraient pas. Un, faire front politiquement. Le chef de l'État a déjà prévenu les armées lors de ses vœux avant-hier. Le rapport de force devient le mode d'expression assumé des relations internationales. Il faut y être prêt, il l'a répété plusieurs fois, il faut y être prêt de faire front militairement. Il y a des entraînements à la coopération à haute intensité avec les Américains, avec les Anglais aussi. On appelle cela dans l'armée française l'hypothèse d'un engagement majeur.
Alors depuis 15 jours, les mots sont de plus en plus forts, les menaces aussi. Ce risque de guerre, est-ce qu'il est réel ?
C'est toujours difficile de distinguer d'un côté ce qui relève des gesticulations diplomatiques, les pressions, la volonté de faire peur, et d'un autre côté la réalité de la menace. Mais l'hypothèse d'une offensive russe est plausible vers ce que l'armée appelle une guerre à haute intensité, État contre État. En Russie, la télévision ne cesse de diffuser des messages hostiles au pouvoir ukrainien. Le travail d'aujourd'hui pour la France, en parallèle des négociations diplomatiques, c'est donc le renseignement et l'objectif de gagner la guerre avant la guerre.
Merci beaucoup Julien Fautra. La brigade RTL, donc sur le dossier brûlant des tensions entre la Russie et l'Ukraine. On rappelle donc cette rencontre aujourd'hui entre les États-Unis et la Russie à Genève.
Nous, on part à Orléans pour la suite de notre nouvelle série RTL.
Oui, 7 jours, 7 reportages, une semaine au même endroit pour vous entendre sur tous les sujets qui vous préoccupent. Hier, souvenez-vous, je vous disais que dans ce même journal que nous allions tenter une expérience, demander aux habitants d'Orléans de venir voir Valentin Boisset dans le café de la Carrosserie où il a passé la journée. Et vous avez eu du succès, Valentin.
Oui, au détour de mes cafés arrive l'expression de président pansement. Autrement dit, il faut reconstruire. Michel, un infirmier, s'assoit en premier. Il faudra commencer, selon lui, parce que la crise a mis en exergue.
Le nombre de crèches, le nombre de personnes qu'il faut dans les hôpitaux, qu'il faut dans les EHPAD, qu'il faut dans les commerces, qu'il faut partout, c'est aux gens de le décider, ça. Il y en a plein qui disent « ouais, mais la politique, on en a marre », etc. Et en même temps, ils font plein de constats politiques.
À ses côtés, Jean-Yves tient à compléter, lui, les patrons d'hôtels.
J'ai jamais vu autant d'argent dépensé, surtout quand on n'en a pas. Il va bien falloir le payer, donc je pense que ça sera surtout les générations futures qui vont le payer, parce que ça sera juste une ligne de crédit en plus qui sera rajoutée à la dette.
Les services publics, l'économie, mais ce n'est pas tout. Valérie travaille dans un EHPAD d'Orléans. Elle est venue me rencontrer à la demande de ses pensionnaires.
Ils m'ont dit, Valérie, vas-y, vas-y, pour lui parler de nous, puis de ce qu'on vit en ce moment.
Le sentiment de solitude persiste là où elle intervient, avec son lot de détresse psychologique. Un enjeu qu'elle estime absent des débats.
Alors évidemment, il y a les seniors qui ont été très impactés, et peut-être justement, dans ces élections, il faudrait qu'on remette au cœur du débat des sujets nobles, le lien social.
Au même moment, sa voisine de 80 ans sourit.
Vous pensez que ça va aller mieux ?
J'espère, c'est tout.
Car la tâche sera compliquée, mais quel que soit le résultat en avril, le futur président devra tenter pour elle de panser les plaies de ces derniers mois.
Merci beaucoup Valentin Boisset. Vous restez à Orléans ce week-end. 7 jours, 7 reportages, donc la nouvelle série RTL jusqu'au second tour de la présidentielle, que vous retrouvez comme d'habitude sur le site et l'application numérique RTL.
Le tennis avec une rencontre ce matin en Australie avec Benoît Paire.
Oui, le joueur français imprévisible, grand talent du tennis. Il a battu d'ailleurs hier Dimitrov, capable du pire comme du meilleur. C'est exactement ce qui fait son charme et sa popularité, Isabelle Langer.
C'est vrai, Benoît Paire est un joueur à part sur la planète tennis. Ses phrases que sa personnalité détonne souvent dans le milieu, mais c'est justement ce qui a séduit Sébastien Bismuth, le président de Célio.
Benoît Paire est le joueur le plus normal du circuit. Il est comme nous, il a des faiblesses et parfois il craque, parfois il en a marre de jouer au tennis. Et c'est pour ça qu'on le voit aussi avoir une vie normale, on peut le voir manger une pizza avant un match.
Une collaboration qui s'est faite en 24 heures et qui réjouit Benoît Paire.
Moi, tu me connais, je suis là pour dire la vérité. Et le rapport que j'ai avec Célio, je ne l'ai jamais eu avec aucune autre marque.
Le joueur français se sent en effet libre de ses choix.
C'est moi qui décide un petit peu des couleurs, c'est moi qui décide de la matière. Je veux cette coupe-là.
Sébastien Bismuth lui fait d'autant plus confiance qu'il apprécie beaucoup l'homme.
C'est un garçon absolument charmant, bienveillant, bien élevé. C'est quelqu'un d'adorable dans la vie.
Leur collaboration va d'ailleurs s'étoffer. Au printemps, Benoît Paire aura sa propre ligne.
Vous connaissez ma passion pour les leggings. Ben voilà, je vais avoir mon petit legging chez Célio, je vais avoir mon petit truc. Eux s'amusent, moi je m'amuse et j'espère que ça plaira aux gens aussi.
Merci beaucoup.
Quel
Isabelle Langer.
Portrait, hein.
Exactement. Le français Gaël Monfils, lui, s'est qualifié pour les huitièmes de finale cette nuit. Et puis deux mots de sport. L'Algérie, tenante du titre, a été éliminée de la Coupe d'Afrique des Nations, battue par la Côte d'Ivoire. Et c'est le début de la 22e journée de Ligue 1 ce soir. Lyon-Saint-Etienne à 21h.
Parfait, c'était le journal d'Olivier Bois. On vous retrouve.